Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu avec une actu gaming super chargée. On va vous parler de plein de choses, de l'annonce de la très attendue Super Nintendo Switch, de plein d'annonces du côté de Sony qui nous a fait quelques surprises plutôt sympathiques, de rumeurs assez légères, mais on va en parler quand même parce qu'il y a des choses à dire sur GTA 6, sur Assassin's Creed Infinity, c'est, faut pas confondre avec Halo, et avec de Kojima qui va fricoter avec Xbox, etc., etc. On a plein de choses dont on va vous parler. On est en juillet 2021, c'est l'épisode numéro 193 du Rendez-vous Jeu. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir encore une fois Escarina qui est à nos côtés pour nous aider à décortiquer toute cette actu. Comment ça va, Esca?
Salut Patrick, eh ben, ça va très bien, je te remercie. À quelques jours d'un long week-end de vacances qui va faire du bien, je pense.
Un long week-end de vacances qui sera que un week-end?
Non, après
t'as
j'aurai...
T'as pas plus de vacances que ça?
Si, au mois d'août, j'aurai quelques semaines, mais déjà une petite coupure de 5 jours en bord de mer, là, ça va faire du bien.
Très bien. J'espère que tu vas prendre ta Nintendo Switch, mettre plein de sable dedans pour avoir une excuse parfaite quand elle ne fonctionnera plus bien pour en acheter une nouvelle en octobre.
Ah bah j'ai déjà stratégie. Plein d'autres excuses,
d'accord,
t'inquiète pas.
Bien,
t'inquiète
bien. Et l'autre personne à qui on doit demander s'il a besoin d'excuses pour changer de Nintendo Switch, c'est Pierre Trouvé qui nous rejoint en direct du Monde. C'est-à-dire qu'on a, comme de temps en temps, un vrai journaliste qui est parmi nous, même si tu disais avant qu'on commence à enregistrer que tu n'étais pas forcément flatté par cette appellation. Comment ça va, Pierre?
Salut Patrick. Non, je disais que c'était dur pour toi de pas te
Ah, de dire, ah d'accord, ok, ouais. j'ai cru que tu faisais dans le self-deprecating humor, comme disent les Anglais, mais non, d'accord, c'était de la considération pour mon ego, c'est très gentil, j'apprécie.
Exactement, et pour ceux de tout le temps, pour ceux qui participent à l'émission aussi.
Très bien, très bien. Bah, merci en tout cas de te joindre à nous, on a un programme, comme on le disait, avant de se lancer, très chargé, on va parler de tout ça. Avant, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous savez que si cette émission est possible, c'est grâce à eux, grâce à Mathieu Balthazar, grâce à Cyril Truong, à Marc Moreau, à Vincent, à Flavien Dumont et à Stéphane Grégory Sata. Il y a beaucoup de Stéphane dans le monde, mais mon Stéphane préféré est de très loin Stéphane Grégory Sata, qui est le producteur de cet épisode, qui a trouvé le niveau secret des producteurs sur le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Pour soutenir l'émission, c'est là-bas qu'il faut aller. On en redira un mot dans quelques minutes en milieu d'émission. Et je dois dire aussi que pour l'after show aujourd'hui, alors j'espère qu'on va pouvoir en faire un, parce qu'il y a des questions de petits qui courent partout, mais là non en fait, le petit est chez sa grand-mère, donc il n'y a que la petite qui traîne dans les parages, donc on va voir si on va pouvoir faire un after show, mais si on en fait un, le thème aujourd'hui ça sera quel est le jeu qui vous a fait comprendre que vous étiez un gamer, que le jeu vidéo allait prendre une grande place dans votre vie, ou le premier jeu qui vous a vraiment marqué. Je pense que c'est un sujet qui pourrait être intéressant. Ça sera pour les Patriotes, bien sûr, la version étendue de l'émission. Si vous êtes Patriote, vous aurez droit à cet épisode étendu dans le flux privé, comme chaque semaine. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est évidemment ce qui s'est passé du côté de Nintendo avec l'annonce de la nouvelle version de la Nintendo Switch. Et il s'est passé un truc assez incroyable, en fait. Il s'est passé un truc inattendu, c'est-à-dire que il y a eu une erreur de communication assez incroyable entre, dans le département communication justement de Nintendo, dans le département marketing, et avec les ingénieurs, puisque ils ont annoncé une nouvelle version de la Nintendo Switch qui s'appelle la Switch modèle OLED. au lieu d'annoncer ce qui était prévu, ce que vous saviez qui allait arriver, la Super Nintendo Switch. On a eu un événement vraiment surprenant. Ils sont trompés, en fait. Ils sont trompés. Ils n'ont pas annoncé la bonne. Donc, bon, on va faire avec. Hein. On va essayer de... Qu'est-ce que t'es drôle, Patrick ? Oui, parce que j'annonçais la Super... Que le nom serait, on le savait, Super Nintendo Switch. Eh bien, c'est raté. Et en plus de ça, elle n'a pas toutes les caractéristiques qu'on espérait. Alors... On va faire les choses dans l'ordre, on va d'abord parler de la console et puis après des réactions à la console qui sont assez intéressantes à constater et à analyser également. D'abord, la console elle-même, bah, c'est pas compliqué, c'est exactement la Switch de base avec le seul truc qui change, c'est qu'elle a un écran plus grand de 7 pouces et un écran OLED qui sera de qualité supérieure évidemment. Et c'est tout, c'est-à-dire qu'il y a, ah oui, alors il y a quand même le stand qui est un petit peu meilleur, qui fait toute la largeur de la console. Et un ou deux autres détails, dans le dock, il y a un port Ethernet pour se connecter en filaire à Internet, ce genre de choses. Mais bon, vraiment, dans l'ensemble, c'est la même console, les mêmes Joy-Con, même la même taille de console avec un écran un petit peu plus grand et de meilleure qualité. Donc c'est vraiment, quand on dit modèle OLED, c'est ça qui change et... pas de processeur plus puissant, pas de 4K, pas de rien du tout. C'est vraiment juste la même console. Alors, comme ça, à froid, je vais poser la question à Escarina. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de la console ? Est-ce qu'elle te tente ? Est-ce que c'est un bon update pour Nintendo ? Quelle était ta réaction, Esca ?
Alors, ma réaction, c'est que quand j'ai reçu le mail de PR de l'annonce de cette console, j'ai même fait un tweet pour ça. J'avais juste le début du titre dans Gmail qui disait « Nintendo annonce la nouvelle console, Nintendo Switch, 3 points ». Et je me suis dit « Ça y est, ils annoncent la Switch Pro !»
Comme
je
tout clique. Le monde.
Et là, je vois... Donc bon, midi déception, oui et non, je suis quand même très contente qu'ils sortent ce nouveau modèle. Je trouve que l'upgrade est intéressante. Alors moi, je l'achèterai, c'est certain. La question que je me pose, c'est est-ce que avec cette console, ils corrigent tous les défauts qu'on a eu au lancement de la première version de la Switch. Alors par exemple, tu vois, tu as parlé du port Ethernet, ça fait partie des défauts qu'ils ont corrigés. Ou de la faible taille du disque dur, pareil, je trouve ça intéressant.
Oui, maintenant, on a 32 gigas au lieu de 16 hein, de stockage dans la console.
C'est 64.
64 au lieu de 32, pardon, oui.
Par exemple, je me dis, est-ce que les Joy-Con n'auront plus le problème de drift ? Est-ce que le dock ne va plus griffer l'écran comme c'était le cas sur les premiers modèles ? Voilà, je reste priori, avec ce genre de questions pour l'instant.
Ouais, ces problèmes ont été a priori réglés, même si le drift, ça reste un petit peu discutable encore. Il y a encore des manettes qui ont un problème de drift. Mais d'une manière générale, c'est censé être les mêmes modèles de Joy-Con. Donc, ça sera les mêmes que sur les consoles de base vendues aujourd'hui. Donc ça, je ne sais pas si ça règle ou pas, mais ce n'est pas un nouveau modèle de Joy-Con. Mais du coup, bon, plutôt séduite. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce, du coup, de ton côté ?
Exactement comme Escarina. Voilà, ouais. À peu près le même scénario, on va dire, les mêmes remarques.
En fait, vous êtes tous les deux Internet, en fait. Hein. C'est exactement la réaction de l'intégralité du net. C'est genre, oh, ça y est, elle est là, ça y est. C'est un petit peu ça. Pardon, je te laisse continuer.
Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'en fait, Nintendo décline une stratégie qu'il a surtout appliquée à ses portables. Je pense à la Game Boy et à la DS, en fait, c'est-à-dire de décliner le modèle sous plusieurs, avec des petites améliorations. Voilà, on a vu des choses un peu plus spectaculaires, je pense à l'Advance SP. Mais en tout cas, voilà, il prolonge la durée de vie de la console avec des petites adaptations et des améliorations qui ne sont pas fondamentales, mais qui donnent un meilleur plaisir de jeu. Et moi, je suis assez curieux quand même de voir l'écran OLED en mode portable. Hein. Je pense que ça va quand même un petit peu améliorer les choses, mais c'est pas, voilà, je pense que ce n'est pas amené à remplacer la Switch actuelle, parce qu'on a vu, les prix sont pour le moment 50 $, 50 euros même,
ouais.
Plus cher. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment il prolonge la durée de vie de la console, mais aussi un petit peu voir le public qu'elle va toucher maintenant.
C'est vrai qu'on a une console qui est assez proche de l'ancienne, qui est un petit peu plus chère. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une console qu'ils auraient pu, dans un autre monde, vendre au même prix que l'actuelle et puis baisser un petit peu le prix de l'actuelle. Mais vu qu'elle se vend toujours aussi bien, l'actuelle, et qu'elle est en rupture de stock régulièrement, bah, ils n'ont pas besoin et ils font juste un petit peu plus d'argent. Il y a un autre effet également. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pour qui elle est cette console. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce que ça va est-ce que des gens vont l'acheter s'ils ont déjà la console actuelle? Est-ce que c'est intéressant pour les nouveaux acquéreurs? Il y a beaucoup de gens qui ont discuté sur le sujet et Jeff Grubb a dit un truc qui résume bien la situation et avec lequel je suis assez en accord, c'est qu'il y a énormément de joueurs, de possesseurs de Switch qui vont l'acheter, qui ont déjà une Switch de base a priori, qui vont l'acheter et qui vont refiler leur Switch à quelqu'un d'autre, leur Switch de base, soit un membre de leur famille, soit la revendre même. Et du coup, mécaniquement, alors évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va l'acheter, mais il y a une bonne partie des gens qui vont le faire. Et donc, ça permet de mettre en circulation des Switch d'occasion moins chers, qui vont être moins chers que le modèle de base neuf, évidemment. Et donc, ça augmente, sans vendre de modèles moins chers, le parc installé de joueurs qui vont ensuite, évidemment, se mettre à acheter des jeux. Et c'est un truc, comme tu le disais, Pierre, qu'ils ont déjà fait avec toutes leurs consoles, mais on se souvient que la 3DS, il y avait eu la 3DS, la 3DS XL, la 2DS, la New 3DS XL, la New 3DS, New 3DS XL, et puis même la New 2DS ensuite. Donc, ils ont vraiment sorti 6 modèles différents de 3DS et 2DS sur la vie de la console. Là, on est un petit peu sur la même stratégie. Et je pense qu'elle est assez cohérente parce qu'ils n'ont pas besoin de faire plus. Ils n'ont pas besoin de s'emmerder. Et ils sortiront sans doute, et on pourra en parler dans une seconde, ils sortiront sans doute une Switch plus puissante dans 2 ans. Et puis, à ce moment, il y aura encore des gens pour la racheter et pour étendre encore le parc installé en revendant leurs anciennes consoles ou en les filant à leurs partenaires, leurs enfants, etc., etc. Donc, c'est une stratégie qui est éprouvée et qui ajoute juste ce qu'il faut pour donner un petit peu envie, assez envie aux gens qui sont super fans de toute façon, quoi.
Ouais, et alors c'est maintenant que tu le dis que je trouve qu'effectivement c'est un petit coup de maître de pas avoir baissé le prix de la Switch originale et d'avoir augmenté, enfin même de quelques dizaines d'euros entre guillemets seulement sur ce nouveau modèle. C'est que je pense que tous les nouveaux acquéreurs de Switch se diront qu'ils vont préférer payer 40 ou 50 euros de plus pour sur le prix d'une console pour avoir la dernière plutôt que de prendre le modèle un petit peu moins cher juste avant. Tu vois, je me dis ils vont préférer mettre la petite obole supplémentaire en se disant bon bah aller pour quelques dizaines d'euros de plus, au final, autant prendre celle-là, quoi.
C'est ça. Et je suis pas sûr qu'un écran OLED 7 pouces en 720p, je suis pas sûr qu'il leur coûte beaucoup plus cher à Nintendo que les écrans actuels de la Switch. Ça sera quelques euros de plus, j'imagine. Il faudrait voir chez ceux qui connaissent les prix dans les chaînes de production. Mais c'est sûr que c'est pas beaucoup plus cher pour Nintendo, donc c'est une grosse partie de marge en plus. Il faut noter aussi que pour les gens qui ont une Switch de base, qui l'ont achetée au moment de la sortie, a priori, cette Switch-là aura le modèle du processeur au minimum qui est celui qui était inclus dans la première révision de la Switch de base. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais la Switch de base a eu une révision tout à fait silencieuse, très discrète, qui a augmenté la durée de vie de la batterie, qui a quasiment doublé la durée de vie de la batterie. Donc, pour les gens qui ont la console de base, ça sera aussi une upgrade pour la durée de vie de la batterie. Et j'irais même jusqu'à dire, il y a eu des... On va en parler également, mais il n'est pas totalement impossible, je ne dis pas que c'est le cas, mais il n'est pas totalement impossible que le processeur de cette Switch OLED soit en gravure plus fine que la Switch actuelle, parce que Nvidia en a marre de graver des trucs seulement pour Nintendo sur des processus d'il y a 6 ans, et du coup, qu'elle pourrait potentiellement consommer encore moins d'énergie, même si l'écran est plus grand, l'OLED, ça consomme moins que le LCD, donc elle pourrait consommer moins d'énergie et avoir une durée de vie un petit peu plus élevée encore, même si, selon les spécifications de Nintendo, la durée de vie est exactement équivalente. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait, je ne sais pas, 10% de durée de vie en plus. Et même, et là je pousse je verse du feu, je verse de l'essence sur le feu de l'Internet. Imaginez que si elle est moins gourmande, cette puce, enfin, si elle a une enveloppe thermique plus faible, il pourrait l'overclocker un tout petit peu plus en mode docké et donc avoir un tout petit peu plus de fluidité sur les jeux quand ils sont dockés. Est-ce que c'est le cas ? Je ne pense pas, mais jette quand même ce petit pavé dans la mare.
Tu penses pas qu'ils l'auraient marketé si c'était le cas ?
Pas si c'est un truc qu'ils peuvent pas garantir. S'ils disent, bon, bah, on augmente de 7% la fréquence du processeur en plus pour que ça soit un petit peu plus capable de gérer les... Tu vois, ils vont pas dire, on espère avoir dans la plupart des jeux 7% de performance en plus, tu vois. Il faudra attendre les tests de Digital Foundry pour voir si c'est le cas ou pas. Comme on dit dans la chatroom, c'est un peu conspirationnisme de base. Mais moi je pense que c'est pas totalement impossible, mais on verra. Et justement, à ce propos, il y a quand même eu des réactions assez, je dirais, énervées à cette annonce, surtout du côté des gens qui décriaient les rumeurs d'une Switch Pro. Et beaucoup de gens ont réagi en disant « Ah, vous avez vu les gens qui pensaient qu'il allait y avoir une Switch Pro, vraiment, vous êtes fait complètement avoir, lol, de toute façon, on savait bien que ce n'était pas possible. » Et qui ont pris un plaisir, je dirais presque malsain, à aller se moquer des gens qui pensaient qu'il allait y avoir une Switch Pro. Et dont je faisais partie, hein, je l'avoue, et clairement, je me suis trompé. Il n'y a pas eu de Switch Pro. Mais j'aurais plusieurs choses à dire à ce propos. Et vous pouvez me dire, je vais peut-être poser la question à Pierre, mais tu vas me dire si tu es d'accord avec mon analyse. D'une part, ces gens qui disaient, qui étaient de l'autre côté, hein, qui disaient non, il n'y aura pas de Switch Pro, ils ne disaient pas juste qu'il n'y aura pas de Switch Pro. Leur argument, c'était Nintendo n'a pas besoin de sortir un nouveau modèle de console. Et ils disaient non, il n'y en a pas besoin, ils ne vont pas en sortir une. Et à moins que je ne me trompe, la Switch modèle OLED est un nouveau modèle. Donc Nintendo a bien sorti un nouveau modèle. C'est juste qu'elle avait juste l'écran et pas le processeur amélioré, mais elle a bien un nouveau modèle. Donc, C'est tout le monde qui s'est planté dans cette histoire. Après, il y a des gens qui disaient « Non, moi, je disais rien du tout. » Et bon, c'est trop facile hein, d'être sur les côtés et de ne pas prendre part à la bataille. Il faut avoir le courage de ses opinions, messieurs, dames, et choisir un camp. Bon, d'une part, voilà, ça c'est dit. Ceux qui disaient « Non, il n'y aura pas de nouveau modèle » se sont plantés aussi. Et d'autre part... c'est pas basé sur rien, toutes ces rumeurs. Il y avait peut-être des plans, j'imagine qu'il y a toujours des plans pour une Switch Pro, on le disait peut-être dans 2 ans. Moi, je pensais peut-être l'année prochaine, parce que les rumeurs font état d'une nouvelle console en 2022. Mais en discutant sur Twitter, notamment avec Oscar Le Maire, j'ai été convaincu qu'effectivement, ils ont plutôt l'habitude d'en sortir tous les 2 ans. Donc maintenant, on a le temps avant cette hypothétique Switch Pro qui va continuer à faire des rumeurs sans fin. Mais d'autre part, je comprends pas pourquoi les gens étaient tellement heureux de pouvoir taper sur ceux qui avaient prédit ou essayé d'analyser les rumeurs en disant peut-être qu'il y aura une Switch Pro. C'est normal d'essayer de spéculer sur ces sujets. C'est une industrie qui nous passionne. On essaye de comprendre les bruits de couloir, de les analyser. Évidemment qu'on parle de ces rumeurs. C'est même un travail, je dirais, de journaliste, d'informer les consommateurs, de savoir ce qui va se passer ou pas. Heureusement qu'on fait ce travail. Donc, je ne comprends pas les gens qui prennent un plaisir, comme je disais, un petit peu malsain, à dire « Vous vous êtes planté, vous êtes bien fait avoir, hein, lololololol !» Donc, bref, voilà. Moi, ça m'a un petit peu irrité. Mais peut-être que je suis trop sensible. Pierre, dis-moi, est-ce que c'est moi qui suis un petit peu trop sensible sur ces sujets où je me sens pris au piège par mes propres prédictions et je veux faire passer le blâme sur les autres que moi ?
Je comprends ton irritation, tout à fait. Après, tu as l'air plus embêté par les gens qui sont revenus vers toi en se moquant de toi que par l'annonce de Nintendo.
C'est pas moi de moi dont ils se sont moqués spécifiquement, c'était parce que la communauté du rendez-vous jeu est évidemment formidable et ne se livre pas à ce genre de pratiques. Mais d'une manière générale, il y avait une ambiance sur Internet. Bon, faut peut-être pas se ambiance sur Internet.
Voilà, les ambiances sur Twitter sont très particulières. Hein. Il peut y avoir le meilleur comme le pire, et du coup, c'est vrai que moi, prends quand même ça parfois avec des pincettes quand ça tombe comme ça. Je trouve que c'est, tu as raison de ne pas te complaire dans la moquerie, que ce soit contre toi, enfin, contre tes opinions, ou au contraire, quand c'est des choses que toi, tu avais prédit et que tu as raison. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est typique du comportement de beaucoup de communautés sur Twitter, de créer un peu des extrêmes qui s'affrontent. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce phénomène, et tu le soulignais bien, c'était un petit peu le fait d'essayer de comprendre une rumeur, d'essayer de comprendre les projets de Nintendo. Et effectivement, d'où vient cette rumeur de Switch ? C'est toujours resté qu'une rumeur, et on a l'impression que ça a été alimenté dans les 6 derniers mois. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a eu des consoles next-gen qui sont arrivées chez Microsoft et chez Sony. Donc, logiquement, le public des amateurs de consoles commence à spéculer. Et d'un autre point, effectivement, chez Nintendo, ils n'arrêtent jamais de faire de la recherche et développement. C'est un constructeur de consoles. Donc, effectivement, ils travaillent sûrement sur plein de projets différents. Et toutes les rumeurs qu'on a eues viennent de ces projets sur lesquels ils travaillent en ce moment.
Et puis... Il ne faut pas oublier non plus que, encore une fois, c'est peut-être pas une Switch avec un processeur amélioré qu'on a eu, mais on a eu un nouveau modèle de Switch. Donc, les rumeurs n'étaient pas...
modèle OLED.
Modèle OLED, c'est dans le nom. C'est un nouveau modèle. Voilà. Donc, les rumeurs, évidemment, étaient basées sur des choses. Et puis, il y a des gens dans la chatroom qui disent « Je ne comprends pas pourquoi Bloomberg, tout le monde fait confiance à Bloomberg, machin. Bah, » Il y a des gens qui sont fiables et des gens qui sont moins fiables. Et ce n'était pas que Bloomberg qui annonçait la sortie d'une nouvelle Switch. Alors oui, ils sont plantés sur la nature du processeur, mais là non plus, je ne pense pas que ça vienne de nulle part. Il y a des gens qui ont des sources dans l'industrie, qui peuvent parfois se planter parce qu'elles ne sont pas directement impliquées dans le développement de tous les trucs. Donc, ils peuvent penser qu'il y a différents types de projets et puis ça se mélange au niveau quand c'est communiqué. On peut avoir des gens qui interprètent des choses de manière un petit peu approximative, mais encore une fois, il y a bien eu un nouveau modèle de Switch. Donc, c'était pas rien, ces rumeurs. Et quand on disait « Ah, peut-être que si vous voulez une Switch et que vous n'êtes pas super pressé, il faut peut-être attendre parce qu'il y aura sans doute un nouveau modèle », selon les rumeurs, eh ben oui, il y a bien eu un nouveau modèle qui a été annoncé. Et ce qui est marrant, c'est que c'était il y a combien de temps ? 2 mois, 3 mois ? Je crois que c'est Furukawa, le président de Nintendo, qui disait... en réponse à une question, nous n'avons pas de nouveau modèle prévu pour cette année. Peut-être qu'il était plus précis que ça, donc il a joué sur les mots, genre nous n'avons pas de modèle mis à jour ou plus puissant ou ce genre de choses. Mais il l'a dit il y a 2 mois, et donc tout le monde a dit « Ah ben voilà, vous avez vu, il a dit que », et donc... Mais évidemment, dans ce genre de cas, on ne peut pas vraiment faire confiance à ce que dit directement le représentant de la société. Donc il faut passer par d'autres biais pour avoir des informations, et heureusement qu'on ne fait pas que écouter et répéter ce que disent les gens, même si le jeu vidéo, ce n'est pas l'industrie la plus importante, ce n'est pas de la politique, de l'économie, comme je le dis souvent. Mais on a quand même un minimum de boulot journalistique à faire dans l'industrie, et puis ne pas prendre au mot tout ce que disent les représentants des sociétés. C'est le jeu. Donc bref. Bref.
Il faut bien des sujets pour les gens à s'écharper sur Internet, sur les jeux vidéo. Enfin, je ne sais pas.
C'est pas faux.
Vaut mieux, je pense.
Bon, donc, on va continuer avec d'autres sujets. Et oui, je suis d'accord, ce n'est pas un modèle. En fait, la clé, c'est que quand ce n'est pas un nouveau processeur, ça veut dire que la qualité des jeux en elle-même ne change pas, donc ce n'est pas un changement aussi important. On est complètement d'accord, mais... Ne perdons pas de vue, encore une fois, qu'il y a bien eu... Oui, dis-moi, Pierre.
Oui, juste pour revenir, on n'a pas parlé de ce que c'était qu'un écran OLED. Et je trouve ça important que les gens sachent ce que c'est avant de se ruer sur la Switch OLED, d'expliquer les spécificités.
Ah ben, vas-y, avec plaisir.
Alors moi, je ne suis pas autant spécialiste que toi, hein, mais ce que j'ai consulté mon collègue qui s'occupe de la tech au moment de la sortie pour l'article. Et donc, c'est surtout un écran qui propose de meilleurs contrastes. De ce que j'ai vu, notamment parce qu'il n'est pas rétro-éclairé, contrairement au LCD.
Exactement,
donc,
oui.
Les noirs, par exemple, sont des pixels éteints totalement, et il n'y a pas la sorte de flou que peut ajouter un écran rétro-éclairé. Et du coup, toi, qui es plus expert que moi sur le sujet, est-ce que tu peux me dire si vraiment, vraiment, ça peut changer l'aspect, je ne sais pas, je dis un jeu au hasard, mais le nouveau Zelda, la suite de Breath of the Wild?
Bah écoute, c'est toujours difficile d'évaluer l'appréciation que va avoir chaque personne, parce que chaque personne aura une perception différente, justement. Clairement, les écrans OLED, c'est de bien meilleure qualité que les écrans LCD. Comme tu le dis, les diodes OLED, Organic LED, émettent leur propre lumière. Alors qu'en LCD, ils n'ont pas assez de lumière pour que ça soit visible. Donc, il faut mettre en dessous des diodes en plus, enfin de l'éclairage en plus. Ce qui fait que même quand la diode est éteinte, eh ben, y a la lumière qui peut passer dessus, ou la lumière des endroits à côté qui, eux, sont éclairés, qui peut se retrouver dans les noirs. Donc, clairement, il est indéniable que la qualité d'un écran OLED est supérieure à celle d'un écran LCD. Sans compter le fait qu'il est un petit peu plus grand, donc ça joue aussi. Et c'est vrai que souvent, dans les jeux, enfin parfois, on a des écrans qui... Enfin, l'écran de la Switch de base est un peu petit pour bien lire et tout comprendre ce qui se passe. Mais oui, la qualité de l'écran OLED est meilleure. Maintenant, ça reste du 720p. Sur un écran de cette taille, ça se voit un petit peu quand même. Mais c'est le genre de choses, je crois... Si on a... Alors, le truc, c'est que la plupart de nos téléphones, aujourd'hui, ont des écrans de ce type de qualité. Souvent OLED, parfois des trucs OLED améliorés, des meilleurs écrans OLED. Je ne suis pas certain que Nintendo ait acheté les écrans OLED de la plus grande qualité qui soit pour leur console. Mais quand on n'a pas l'habitude de ce type de qualité, c'est pas un truc où ça te saute aux yeux immédiatement et tu te dis « Oh mon Dieu, je ne veux plus jamais voir autre chose que cet écran !» Mais ça se sent, je dirais que c'est un bon petit bonus et que pour 50€, si vous avez les moyens de vous le permettre et que vous devez acheter l'une ou l'autre des Switch, je dirais que ça vaut les 50€. Entre la taille de l'écran et l'écran OLED, je pense que ça vaut la taille. Maintenant, il faut attendre de le voir directement et d'avoir les premiers tests pour en être certain. Mais oui, l'écran OLED, le contraste bien meilleur fait que souvent, c'est préférable.
Par contre, on est d'accord.
Pardon.
Oh, pardon. Oui, non, j'allais juste demander, on est d'accord que par rapport au problème de réflexion du soleil sur l'écran, ça ne change rien. Parce que la dalle est la même, enfin le type de dalle...
Je crois que ça dépend des types d'écrans OLED. Ça dépend aussi de la surface du verre. Je ne saurais pas te dire complètement. Ça dépend de la luminosité de l'écran qui est toujours, même en OLED, variable. Ça, disons que oui, peut-être que dans des conditions pas trop éclairées, ça ira. Je ne suis pas convaincu que si tu as le soleil en plein sur la tête, ça va te permettre de jouer sans aucun souci. Ça, il faudra attendre de l'avoir directement, je pense.
En tout cas, la console sort le 8 octobre, le même jour que Metroid Dread. Ouais. Qui, moi, me tente beaucoup. C'est le nouveau Metroid. Et c'est un jeu de SF dans un univers assez sombre, quoi.
Ouais.
Je pense que je suis vraiment très curieux de voir le résultat.
Eh bien, écoute, rendez-vous le 8 octobre, alors. Et si vous en voulez une, vous avez intérêt à précommander tout de suite parce que je pense qu'elles vont, comme tout ce qui porte le nom Switch, partir très, très vite. Écoutez, on va avancer, on a passé beaucoup de temps sur cette Switch, mais c'était bien normal, avec donc les news du côté de chez Sony, qui a annoncé plusieurs choses. D'abord, le State of Play qui aura lieu ce soir, et donc on ne va pas en parler trop longuement, parce que, a priori, quand vous écoutez cet épisode, il a déjà eu lieu, qui se concentrera sur Deathloop et... plusieurs autres jeux, des jeux indépendants et d'autres jeux qui vont arriver sur PlayStation. Alors, ils l'ont dit très clairement dans l'annonce, et ils ont bien fait de le faire, on n'aura pas de jeux de Sony directement. Donc, pas de God of War, pas d'Horizon Forbidden West, ni tout ça. Ça sera uniquement des jeux tierce partie. Donc, ça gère les attentes de manière... habile, mais surtout, ils ont dit qu'ils vont se concentrer sur le gameplay de Deathloop, ce que beaucoup de gens ont fait remarquer que c'est un jeu Xbox, donc je me demande à quel point ils vont appuyer sur le fait que c'est un jeu Bethesda, ZeniMax, qui est racheté par Microsoft, bien sûr, depuis quelques mois, mais qui sortira exclusivement sur Sony, puisque les contrats avaient été signés avant le rachat. Et puis d'un autre côté, ça va être intéressant de voir enfin ce qu'est le gameplay de Deathloop, parce que mine de rien, on ne sait toujours pas comment ça va se passer, ce jeu, même si on en entend parler depuis des années maintenant. Et puis on attend aussi d'autres jeux comme Kena Bridge of Spirits ou d'autres choses, peut-être quelques surprises, mais ça ne semble pas être le State of Play des surprises. Encore une fois, il arrive dans quelques heures, donc vous attendez des choses, vous, de ce State of Play, ou moyen ? Et Eska, tu as des choses que tu attends avec impatience?
Moi, ce que j'attendais le plus, c'était tout ce qui ne va pas y être.
Bah oui, comme tout le monde, oui. C'est pour ça qu'ils ont prévenu, hein.
Non, après, je suis toujours très curieuse des petits jeux un petit peu indés, un peu originaux, et qui peuvent ressortir de ce genre de conférences. Donc, très clairement, je vais regarder avec intérêt, bien que je n'ai toujours pas de PS5. donc oui, ça m'intéresse quand même. Après, voilà, très franchement, ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui n'y sera pas. Donc,
on est d'accord.
Wait and see.
Ils ont aussi annoncé quelque chose juste avant, et d'ailleurs, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, ok, donc a priori, le State of Play, c'est foutu. Ils ont annoncé Ghost of Tsushima Director's Cut qui arrive le 20 août et c'est une version améliorée de Ghost of Tsushima avec des améliorations sur la PlayStation 5 qui sont qui tire parti des spécificités de la PlayStation 5, à savoir les manettes adaptatives, une meilleure résolution dynamique qui cible le 60 FPS. Hein, ils disent bien que ça n'est pas le 60 FPS garanti, mais qui cible le 60 FPS. Et d'ailleurs, ils l'appellent le 4K dynamique, je crois. Mais surtout, en plus de ça, il y aura le contenu additionnel de l'île d'Iki, Ikishima, qui sera disponible et qui est l'intérêt principal, je pense, de ce jeu. Même si je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les gâchettes adaptatives, il y aura dans le contenu de l'île d'Ikishima, il y aura peut-être des éléments graphiques et autres qui tireront parti de la PlayStation 5, un petit peu plus que le jeu de base. Moi, j'ai adoré Ghost of Tsushima, je l'attends avec grande, grande impatience. Pierre, j'imagine que pour toi aussi, c'est le cas, mais en fait, je vais changer ma formulation, je vais dire j'espère que c'est le cas pour toi aussi, parce que si tu me dis que tu n'aimes pas Ghost of Tsushima, on ne va pas être content. Hein.
Alors, moi, déjà, la bande-annonce donne vraiment envie. Et voilà, le jeu est toujours dans sa boîte, parce que je suis service Pixel depuis quelques mois. Et donc, c'est un des jeux que j'ai acheté l'année dernière et que je me réserve une belle plage de temps de vacances pour faire. Mais bah, tout cas, j'aimerais bien avoir le nouveau, tu vois, mais me dis, qu'est-ce que je ferais de l'ancien. Donc, heureusement, les sauvegardes iront d'une version à l'autre, donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, moi, je meurs d'envie, j'adore le Japon, j'y suis allé qu'une fois, mais je meurs d'envie d'aller sur l'île d'Ikishima, qui a priori, en plus, a tout un background historique avec des invasions mongoles qu'ils ont teasé, quoi.
Oui, les invasions mongoles, c'est la base de Ghost of Tsushima. Mais oui, il y a une histoire spécifique là-bas. Moi qui suis un grand fan aussi, je vais peut-être passer le jeu en japonais. Enfin, je l'avais en japonais à la base, mais là, il y aura la synchronisation des lèvres qui va être activée en japonais aussi. Mais du coup, tu as déjà le jeu sur PS4, bien sûr. Donc, il faudra que tu sortes que tu payes 20 euros pour le contenu additionnel, parce que le jeu de base, il est au prix... c'est en fait la version Director's Cut, elle sera au prix du jeu de base, donc 70 euros, sans doute 80 sur PlayStation 5. Mais si tu as le jeu de base, tu peux upgrader pour 20 euros sur PlayStation 4 et pour 10 euros de plus sur PlayStation 5. Donc, il faut quand même, si on a le jeu de base et qu'on veut la version PlayStation 5 avec le contenu additionnel, il faut payer 30 euros. Moi, ça ne me paraît pas complètement déraisonnable. Je comprends que Sony va faire payer pour son contenu additionnel. En pratique, ça veut dire qu'on peut, même si on a une PlayStation 5, payer 20 euros et jouer à la version PS4 sur PS5, qui a déjà bénéficié d'améliorations gratuites, donc il est plus fluide déjà que le jeu sur PlayStation 4, quand on est sur PlayStation 5. Mais pour avoir les petits trucs qui sont presque anecdotiques, c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, la 4K dynamique en 60 FPS, on espère, il faut payer 10 euros de plus pour avoir ces bonus qui sont uniquement sur PlayStation 5. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? Moi, oui, je suis tout à fait prêt à ouvrir mon portefeuille à Sony. Pierre, est-ce que tu l'as mauvaise d'avoir payé ton jeu auquel tu n'as jamais joué et de devoir repayer 30 euros si tu veux la version PS5 ?
Franchement, alors, déjà, moi, je l'avais vu un peu moins cher. La nouvelle version, je l'avais vu à 79 euros. Et je me dis, c'est comme un DLC. Enfin, vraiment, on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans l'île d'Iki. Mais je le vois comme un DLC. Et en plus, le jeu Ghost of Tsushima est quand même, moi, je l'ai trouvé en solde. Donc, ça va.
Ah,
je
ne
l'ai pas trop mauvaise. Et non, au contraire, je l'avais payé vraiment peu cher. Et je me suis dit, mais là, je ne peux pas passer à côté, quoi. C'est dingue. Donc, plutôt un DLC, même si un portage sur Next Gen.
Ouais. Et donc, toi, Eska, t'as qu'à payer 20 euros, du coup. T'es tranquille, puisque t'as pas de PS5, ils te rendent service. T'as pas ce choix cornélien à faire.
Donc, ouais, je vais juste pas les payer, en fait.
Tu vas même pas... Oh là là.
Non, mais le truc, c'est que moi, quand je termine un jeu, j'ai énormément de mal à y revenir. Pour moi, une fois que c'est fini, je passe à autre chose. Ou alors, pourtant, j'ai adoré Ghost of Tsushima, hein, mais je me vois pas y retourner. Pour moi, il y a une coupure qui est faite, si tu veux, entre quand j'ai fini un jeu, dans mon esprit, c'est fini, et y revenir après, se replonger dans l'univers, etc. Moi, je suis passée à autre chose, c'est très, très compliqué. Donc, j'attendrai Ghost of Tsushima 2. Voilà, qui ne sera pas annoncé au State of Play
de ce soir, malheureusement.
Avec God of War. Et
je note encore une fois que il y a tous les contenus, bien sûr, qui sont inclus dans cette version, y compris Ghost of Tsushima Legends, qui était une mise à jour gratuite qui avait été ajoutée au jeu quelques mois après sa sortie, qui est une mise à jour multijoueur, mais qui inclut une campagne solo coop. Qui est super, super sympa et que je recommande vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est une injustice terrible qu'on n'ait pas dit plus de bien de cette version, enfin de cette mise à jour, qui est vraiment super sympa. Et puis, il y a un mode horde très bien fait à 4, avec même un raid. C'est vraiment super sympa quand on a fini la campagne. Donc, voilà. 30 euros, enfin 20 euros pour le DLC. À vrai dire, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, c'est trop cher, c'est pas assez cher, c'est compréhensible, tout ça. » On ne sait pas encore combien de contenu il va y avoir. Donc, c'est difficile de dire si c'est bien ou pas. D'une manière générale, les choses de ce type-là qu'on a vues, notamment chez Sucker Punch, avec... comment il s'appelait Infamous Second Son, il y avait eu une extension équivalente qui s'appelait First Light, qui était super, super bien. Je vous en parlais déjà, je pense, en 2014, à l'époque, dans le rendez-vous jeu. Et donc, moi, je fais confiance à Sony et Sucker Punch, peut-être à tort, mais pour nous fournir un contenu qui vaut la peine et qui vaut le prix. Mais on verra.
C'est rigolo, c'est un director's cut. Normalement, c'est quelque chose qui est déjà existant au tournage d'un film et qu'on va remettre dans le film parce qu'il était coupé par un producteur. Là, c'est marrant parce que ça désigne du contenu additionnel et je trouve ça assez rigolo quand même.
Ah, c'est comme le Death Stranding Director's Cut, dont on n'a toujours pas tous les détails non plus, qui, tout le monde le fait remarquer, mais dire d'un jeu de Kojima qu'il a besoin d'un Director's Cut, c'est un petit peu ridicule. Mais je pense que c'est la nouvelle appellation de Sony et que maintenant, les jeux genre avec du contenu en plus, ils s'appelleront les Director's Cut. Et on va peut-être avoir d'autres jeux Director's Cut que je me précipiterai pour acheter, évidemment.
C'est plus vendeur que le terme DLC. Et puis, je pense aussi que ça renforce le lien très cinématographique qu'il y a. On parle de Ghost of Tsushima et de Death Stranding, qui sont quand même des jeux qui sont très, très cinématographiques, hein, qui sont soit des références pas du tout cachées à du cinéma de genre, soit des jeux faits par des personnes qui auraient rêvé de travailler dans le cinéma. Donc,
non, mais...
Ça se tient.
T'as raison, ça associe un petit peu la pratique au cinéma, ce qui est clairement un truc que recherche, enfin pas le cinéma lui-même, mais l'idée de grands spectacles et expériences qui vous transportent, etc. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, effectivement. Moi, ça me gêne pas, hein, franchement. Faut pas être complètement accroché au principe du truc. C'est bon, c'est pas la fin du monde s'ils appellent ça Director's Cut, mais...
Moi, je trouve ça très bien parce que ça me touche un peu au cœur, tu vois. Je suis aussi fan de cinéma et ça me rappelle le Blade Runner Director's Cut. Quand il est sorti, j'étais super excité. Il y a aussi les Director's Cut les plus connus, Apocalypse Now. Et au contraire, c'est une filiation et ça crée un peu un lien émotionnel, comme tu dis, Escarina. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et puis, il y a des gens qui disent dans la chatroom, ouais, c'est le nouveau Definitive Edition. Oui, c'est ça, mais on a eu plein de termes. Hein, le Game of the Year Edition, Good. Definitive Edition, ouais, c'est voilà. Ça, il y en a eu plein. Mais... C'est pas mal, Director's Cut. Moi, ça me gêne pas. Bon, bah écoutez, on va passer aux news fort intéressantes sur notamment GTA 6, Ubisoft's Assassin's Creed Infinity et plein d'autres choses. Mais je voudrais avant ça remercier encore ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. En fait, dans la vie, on fait des choix. On fait toujours des choix et en fonction des choix qu'on fait, ça définit la personne qu'on est. Et par rapport au rendez-vous jeu, il y a un choix très important que vous devez faire aujourd'hui. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez décider de la soutenir ou de ne pas la soutenir. Et en fonction de ce choix que vous faites, vous allez changer la couleur de votre aura personnelle et définir un petit peu la qualité de votre personnalité. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, mais peut-être que vous écoutez l'émission et vous dites « Ouais, bon, c'est sympa, mais enfin, ça va. Si demain, le rendez-vous jeu disparaît, je ne vais pas en pleurer non plus. Hein. » Peut-être que vous dites « Ah ouais, mais quand même, le rendez-vous jeu, moi, j'aime bien quand il arrive dans mon app de podcast, j'ai un petit peu le sourire parce que je me dis que ça va être sympa de l'écouter dans le métro ou dans les transports ou en faisant le ménage. » Et si vous dites ça, eh ben peut-être que la bonne chose à faire, c'est d'aller voir sur patreon.com/rdvjeux. Je ne dis pas qu'il faut absolument soutenir, mais peut-être s'y intéresser, se poser la question. Parce qu'en plus, si vous le faites, si vous soutenez, eh ben vous avez droit à des bonus super cool, vous avez droit à des émissions sans pub, sans cette petite partie promo au milieu, et surtout, vous rejoignez la communauté des gens qui font ce choix. Des gens qui savent qu'au fond d'eux, ils sont quand même des gens bien. Parfois, on se pose la question, on ne sait pas, est-ce que je suis quelqu'un bien, est-ce que je suis quelqu'un de pas bien, est-ce que je fais les bonnes décisions dans ma vie, est-ce que je fais les bonnes actions. Ben là, il y a un moyen simple de répondre à cette question. Si vous appréciez le rendez-vous jeu, soutenir l'émission, ça fait de vous quelqu'un, je ne dis pas tout de suite quelqu'un de bien, mais quelqu'un d'un petit peu meilleur. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez être un humain de qualité plus ou moins bonne, c'est vous qui choisissez. Mais je dis simplement, je vous propose cette idée que si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment avec nous, bah peut-être considérez l'idée d'aller sur patreon.com/rdvjeux pour peut-être soutenir l'émission et rejoindre la communauté formidable, des gens formidables qui soutiennent cette émission. Je J'avais pas préparé hein, ça, j'espère que ça vous aura parlé, mais faudrait que je travaille un petit peu plus mes promos sur le Patreon. Patreon.com/rdvjeux, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Patrick, c'est maintenant que je dois faire mon choix. Suis-je quelqu'un de bien ou quelqu'un de moins bien ?» Cling, Patrick, et vous prenez votre décision. Patreon.com/rdvjeux.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Alors, on continue avec... vous avez vu passer ces rumeurs sur GTA 6 qui sont, pour moi, les rumeurs autour de la rumeur sont plus intéressantes que la rumeur elle-même. Mais est-ce que vous avez entendu parler de GTA 6 et de ce qui se passe autour du jeu et du développement supposé de ce jeu? Pierre, t'en as entendu parler peut-être?
Un peu, je veux dire. Un petit peu, ça fait un peu de temps que ça dure. Moi, pendant l'E3, là, je regardais sur, par exemple, sur Twitch et YouTube les confs et je voyais GTA 6 revenir en permanence. j'ai l'impression que ça va devenir une running joke. Il y a même le stagiaire de 3e qui m'en parlait la semaine dernière et il me demandait si j'avais des sources là-dessus. J'ai trouvé ça trop marrant.
Mais c'est marrant parce que, attends, en 3e, quelqu'un qui est en 3e, j'ai pas bien entendu.
Un stagiaire de 3e du journal.
Ah oui, donc il est en 3e aujourd'hui. C'est-à-dire que 3e, c'est quoi? C'est 15 ans, c'est ça?
Alors là, oui,
ça, je dirais. C'est autour de 15 ans. Autour de 15 ans. Ce qui veut dire que quand GTA 5 est sorti, il devait avoir 5 ans. Un petit peu plus, allez, 8 ans. C'est ça, hein, GTA 5, c'était 2013. Donc 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc, la raison pour laquelle il s'intéresse à ce truc, c'est parce qu'il joue à GTA Online, j'imagine. C'est montré, encore une fois, par un moyen détourné à quel point GTA Online est important et peut-être à quel point ils peuvent prendre leur temps pour faire GTA 6. Mais comme je le disais autour de ça, alors la base de la rumeur, c'est que ils sont en train de travailler dessus et ils ne devraient pas sortir avant 2024-2025. Ils essayent de faire quelque chose d'extrêmement ambitieux. C'est intéressant parce que pour GTA, ils sont toujours coincés dans le fait de faire toujours plus ambitieux. Il y aura plusieurs protagonistes, comme dans le 5, dont une femme. Et ils essayent de développer des comportements des NPC, des personnages joués par l'ordinateur, qui seraient beaucoup plus intelligents que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui auraient une sorte d'intelligence artificielle qui crée une expérience différente dans la ville. Et on reviendrait, si je ne me trompe pas, à Vice City, qui est donc... ça serait le cadre de l'aventure. Les deux choses qui me paraissent encore plus intéressantes que ça, c'est que 2024-2025, c'est ce sur quoi ils tablent, non pas juste parce qu'ils peuvent vivre de GTA Online et peut-être dans une moindre mesure de Red Dead Online pendant longtemps, mais aussi parce que, selon les rumeurs, ils essayent de prioriser le bien-être de l'équipe, et des équipes. Donc ça, c'est plutôt... une bonne nouvelle, si ça s'avère être vrai, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas on doit le sortir dans 2 ans et qu'on bosse à fond non-stop pendant tout le développement. Espérons que ce soit le cas. Et puis à côté de ça, on a eu quelques jours avant l'annonce du nouveau studio, ou en tout cas de la nouvelle société de Dan Houser, frère de Sam Houser, et cofondateur avec son frère de Rockstar. Et cette boîte-là, qui s'appelle Absurd Ventures in Games, donc des aventures ou plutôt des investissements peut-être absurdes dans les jeux vidéo. On ne sait pas très bien si c'est une boîte d'investissement justement ou vraiment un développeur, mais c'est super intéressant que Dan Houser ait fondé une nouvelle société parce qu'on se souvient qu'il avait quitté Rockstar après la sortie de Red Dead Redemption 2 dans un contexte qui était particulièrement difficile pour la société, puisqu'elle était accusée d'un crunch abominable, d'une tyrannie de Dan Houser, justement, sur ses équipes. Et donc, il avait finalement été obligé de partir. Alors, évidemment, ils ont mis les formes, ils ont trouvé des moyens polis de le dire. Mais je trouve intéressant que les deux news arrivent en même temps. Et je suis curieux de voir ce que va faire Dan Houser avec sa boîte à l'avenir. Est-ce que vous avez vu également ce rapport sur Ubisoft et leur prochain Assassin's Creed, qui ne serait pas un Assassin's Creed unitaire, comme on les a vus jusqu'à maintenant, mais un jeu service qui pourrait grandir et vivre sur des années et des années dans plusieurs environnements différents, et donc un jeu service possiblement, a priori, multijoueur. Et suite au rapport de Jason Schreier, enfin, dans le même temps, Ubisoft a même été obligé de confirmer la chose avec un petit article qui explique de quoi il s'agit sur leur blog. C'est marrant qu'ils aient été poussés à confirmer. Escarina, est-ce que ça te tente un Assassin's Creed en mode jeu service? La réaction sur Internet n'a pas été hyper positive.
Alors... plusieurs choses. Bon, déjà, moi, je suis pas une joueuse d'Assassin's Creed, bien que les derniers, là, depuis, entre Origins, Valhalla et le troisième dont j'ai oublié, non, Odyssey, me fassent très envie. Après, c'est plus des questions de temps, parce que c'est des jeux à chaque fois où tu dois passer au moins 50 heures pour dire de bénéficier des environnements, etc. Et puis, si tu veux tout faire, c'est encore plus long. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand je lis un jeu multijoueur service, bah, c'est un MMO, quoi. Enfin, tu vois, moi, c'est comme ça que je le comprends, quoi. C'est qu'en fait, ils sont en train de préparer un genre de MMORPG.
Bah, MMO, on sait pas, mais ça peut être un Destiny, un The Division. Tu vois, ils ont de l'expérience dans ces trucs-là, eux aussi. C'est pas tout à fait un MMORPG, hein, un truc à la Division.
Bah, oui, alors moi, ce que alors pourquoi tu dis que The Division, c'est pas un MMO?
Bon, ça, c'est moi qui m'arrête sur des technicalités ensuite, mais la caractéristique principale d'un MMORPG, c'est que tu as des serveurs persistants et des centaines de joueurs, voire des milliers sur le même serveur que tu peux aller voir dans la zone dans laquelle ils sont spécifiquement. Généralement, sur les jeux comme Destiny ou The Division, tu as des hubs centraux où tu peux avoir 20-30 joueurs. Et après, tu as des zones instanciées dans lesquelles tu vas aller t'aventurer et où il y a moins de monde. Mais bon, c'est un truc technique. Je comprends ce que tu veux dire. C'est effectivement le même genre de truc, quoi.
Mais je comprends aussi tout à fait ce que tu veux dire et tu t'es beaucoup plus juste que moi sur l'utilisation du mot. Mais c'est ce à quoi je pensais quand je disais ils font un MMO, c'est effectivement ils font un jeu à la Destiny, à la The Division. Et pourquoi pas, après, du coup, je suis curieuse de voir dans quel type de monde ils vont implanter ce jeu. Est-ce que ça va être un mélange de tous les univers qui nous ont déjà servi dans les Assassin's Creed précédents? Est-ce que ça va être un univers figé? En tout cas, vu la qualité des derniers Assassin's Creed qu'ils ont sortis, je pense qu'ils ont les épaules et les qualités de proposition pour nous vendre quelque chose qui peut être assez chouette, quoi. Donc, et puis en plus, ils ont un contenu. Enfin voilà, quand on dit les jeux à la, donc quand on pense aux Far Cry, aux Assassin's Creed, etc., c'est déjà des mécaniques de jeu qui fonctionneraient super bien dans un MMO entre guillemets. Donc ça ne peut que plutôt fonctionner, je pense. Hein.
Est-ce que, Pierre, tu es convaincu par le concept également, faire le grand écart du... Ou, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait un grand écart, comme tu le dis, SK, on va dire le moyen écart du jeu solo Assassin's Creed à un jeu service multi. C'est faisable, à ton avis, ou c'est risqué, il risque de pervertir le truc?
Alors, moi, sur le plan personnel, j'aime pas quand ça ronronne. Donc je trouve ça intéressant qu'ils prennent le risque de changer une formule qui pourtant cartonne depuis 3 épisodes. Donc je trouve ça assez intéressant qu'ils remettent en cause leur format habituel pour tenter autre chose. Et donc sur le plan après Assassin's Creed thématique, moi ça ne me paraît pas du tout compliqué parce qu'au contraire, c'est un univers qui parle à des histoires qui remontent à des périodes dans le temps. Très, très marqué, et peut-être qu'ils vont choisir de les faire évoluer sur le long terme et qu'on ait cette sensation du temps qui passe et de périodes qui changent. Ça parle beaucoup de ça, Assassin's Creed. Et la deuxième composante, c'est aussi la géographie. Ils vont peut-être aussi en profiter pour créer une map absolument démentielle. Qu'on puisse, par exemple, j'imagine, voilà, quelque chose de totalement arbitraire, de passer de l'ouest de l'Europe à l'Europe centrale, voire à la Russie, enfin de nous proposer des déplacements qui, jusque-là, pas possible dans un jeu qui a une date de sortie à une année précise.
Ouais, moi je suis assez d'accord finalement avec vous. Je suis content que on soit sur la même longueur d'onde. On a beaucoup vu, alors là encore, hein, c'est l'internet, mais des réactions plutôt négatives de gens qui disent oulala, touchez pas Assassin's Creed, pourquoi mettre du jeu service partout? Il n'y a pas de raison, c'est un moyen de choper encore plus d'argent. Et évidemment que le but final est toujours de choper encore plus d'argent. Mais déjà, les Assassin's Creed, vous savez, ils vivent sur un an, voire deux ans. Il y a du contenu additionnel substantiel, vraiment, des DLC. Et puis, il y a des possibilités d'acheter des trucs dans les jeux eux-mêmes. On ne va pas revenir sur la pertinence de ces éléments-là. Ça serait une autre discussion. Mais c'est un petit peu dans le mode « on va faire vivre notre jeu pendant longtemps » déjà à la base. Mais en plus de ça, oui, moi je suis d'accord avec Pierre, il y a une opportunité dans le monde d'Assassin's Creed de faire quelque chose de vraiment intéressant. On a la composante géographique d'une part, ouais, le monde réel, et en plus de ça, on a la composante temporelle, chronologique. On peut même aller visiter des endroits qui évolueront au fil du temps, comme tu le disais, Pierre. On peut imaginer une zone, je ne sais pas moi, de l'Italie, pour prendre un exemple qui est connu, mais enfin qui est proche de nous. Mais on peut aller de, bah, je ne sais pas, l'Empire romain à la Renaissance, par exemple. Et c'est un petit peu des endroits qu'on a déjà explorés, mais ça donne un, ce type de... une idée du type d'évolution que ça pourrait donner. Moi, je crois que c'est possible. Alors, évidemment, ce n'est pas garanti. Ils peuvent tout à fait se planter. Et il y a plein de jeux Ubisoft auxquels je n'accroche pas. Mais plutôt que de se dire, ah bon, cette année, le prochain Assassin's Creed, ils vont nous emmener où ? Ah, on va aller au Vietnam. Super, génial. Ah, le prochain Assassin's Creed, il sera où ? Ok, ça va être en Sibérie. D'accord, très bien. C'est le fait qu'ils essayent quelque chose de différent, moi, me paraît... judicieux et intéressant. On ne peut pas reprocher tout le temps aux développeurs de faire systématiquement le même truc avec des formules annuelles. Et puis ensuite, quand ils essayent autre chose, quand ça ne va pas dans le sens que vous aimez, que vous voulez, moi, je trouve qu'il y a vraiment la place pour tout. On a plein de jeux solo, grande expérience solo, cinématique, etc. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas tenter un truc avec Assassin's Creed. Ça pourrait être intéressant.
Non, bon, ça se prête super bien. Et je pense qu'ils ont vraiment tout le matériau pour recycler tout un tas de choses qu'ils ont déjà mis dans leur jeu solo et pouvoir les réutiliser dans un univers multi. On pourrait même parler de... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça pourrait tout à fait être un multivers, comme vous le disiez. Ça se prêterait complètement au background du jeu. Quoi. Donc, franchement, ouais. Ça se tente. Hein.
Je suis curieux, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, à côté de ça, ils réunissent les équipes de Montréal et Québec pour faire le truc. Et donc, ça va faire une équipe encore plus grande. À l'origine, il se passait le relais. C'était l'une qui faisait un épisode et puis l'autre équipe faisait le suivant, etc. Je pense quand même qu'il ne va pas sortir demain. Hein. À mon avis, ce n'est pas l'année prochaine qu'il va arriver parce qu'un jeu de ce type-là, il doit falloir beaucoup, beaucoup de temps pour le développer. Donc, bon, à voir.
Le changement d'équipe, je le trouve très intéressant, moi.
Ouais.
C'est un truc. Dans leur communiqué, ils communiquent beaucoup dessus. Il y a des choses un peu encore du jargon d'entreprise. Mais en fait, moi, je pense qu'ils ont tiré les conclusions d'une période un peu agitée avec le Covid, un peu agitée avec leur restructuration suite aux problèmes de management d'Ubisoft. Donc, ils tentent de réinventer.
Problème dont parle, pardon, juste pour le préciser, problème dont parle Jason Schreier dans son article, où il dit bah, y a des gens qui sont encore en place et qui ont été accusés de harcèlement. De l'autre côté, Ubisoft dit on a enquêté avec une firme tierce, donc extérieure à la société, on a enquêté sur tout ça, et les personnes qui ont été déterminés coupables des accusations qu'on a portées à leur égard, ont eu des décisions administratives et des sanctions, voire des renvois appropriés, et on n'a pas laissé passer les choses. Après, vous pouvez croire qui vous voulez, mais ils en parlent, et c'est un sujet qui est ressorti. Quoi. Mais pardon, je te laisse continuer.
Oui, oui, et moi je trouve que c'est intéressant qu'ils se réinventent suite à ça. Et il ne faut pas non plus oublier le Covid. Hein. Le télétravail a changé énormément l'industrie du jeu vidéo. Voilà, on est sur. Moi j'ai discuté avec pas mal de développeurs ou de patrons de studio qui me racontent un peu comment ça s'est passé, comment ils sont habitués maintenant à ce télétravail-là. Et je pense qu'ils peuvent ainsi unir les forces de deux villes, Québec et Montréal, de façon peut-être un petit peu plus. Intéressante et ça et alléger aussi un peu le poids de la hiérarchie qu'il y a quand une entreprise devient aussi énorme qu'Ubisoft.
Je serais curieux de savoir combien de personnes travaillent dessus, hein, parce que déjà à la base, les Assassin's Creed, c'était des milliers de personnes impliquées, mais s'ils réunissent les deux studios ensemble, alors tous ces milliers de personnes n'étaient pas tous des développeurs, mais quand même, je me demande si c'est pas la plus grosse équipe de développement de l'histoire, parce que de manière notoire, Ubisoft, c'est des grosses, grosses équipes. Et encore plus que pour d'autres jeux potentiellement, mais des jeux, je pense aux jeux de Rockstar justement. Si je ne me trompe pas, chez Ubisoft, ils sont encore plus que chez ces autres gros studios. Donc, bref, on verra. De toute façon, à mon avis, c'est pas pour tout de suite ce jeu-là. Alors, la suite, quoi d'autre ? Vous avez vu cette annonce de... Alors, est-ce que c'est ça a été confirmé ou est-ce que c'est encore à l'état de rumeur ? Je crois que c'est à l'état de rumeur. Il y aurait eu un accord, un pré-accord signé entre Hideo Kojima et Xbox, qui est en fait une sorte de, d'accord sur le principe qui fait, qui précède un contrat en bonne et due forme. Donc, c'est une phase un petit peu exploratoire. Mais d'une manière générale, on peut partir du principe que s'ils sont arrivés à ce stade, ça veut dire qu'ils vont aller au bout. Et donc, cet accord est pour le développement d'un jeu exclusivement sur la plateforme de Microsoft. C'est un truc qui courait, une rumeur qui courait depuis longtemps. Là, elle est, on va dire, pas complètement confirmée, mais ça semble vraiment se confirmer. Le rapport vient notamment de Jeff Grubb, qui commence à être assez fiable dans ses rapports, justement. Bon, un jeu Kojima sur Xbox, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des pétitions qui sont passées. Je parlais la semaine dernière des recoins sombres de Twitter où les gens se battent à coups d'insultes d'une plateforme à l'autre. Et le
tu
désespoir...
vas trop là-bas.
Mais je me suis désabonné, ça y est, c'est fini. J'y vais plus.
Ah, c'est bien.
Mais juste avant, en fait, j'ai vu le désespoir des gens qui voient une de leurs idoles, Sony, partir du côté de Xbox, c'était assez pathétique. Mais bon, un jeu Kojima sur Xbox, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire, mais...
Bon, il est complètement décomplexé sur le sujet maintenant, je pense, Kojima, et je pense que ses fans devraient faire un peu pareil.
Disons que... Ok, si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est une pratique que je fais souvent ici, je me fais l'avocat du diable... Si tu es un méga fan de Kojima et que tu as l'argent pour te payer une console, tu peux être un petit peu dégoûté de te dire son prochain opus magnum, il va être sur une console que je ne peux pas acheter. En même temps, il risque, oui, d'être disponible sur le Xbox Game Pass Ultimate. Et donc, tu peux le faire, tu payes un mois de Xbox Game Pass à quoi, 13 euros, je crois. Et tu peux y jouer, et puis c'est fini. Si t'as la connexion Internet qui va bien.
Je pense que si t'es un fan de Kojima, et que du coup tu n'avais de l'argent que pour une console, et que tu as acheté Sony, bah, il faut que tu acceptes que Monsieur Kojima est un être libre et qu'il peut bien travailler.
Si tu commences à partir dans des considérations raisonnables, on va pas pouvoir discuter.
C'est comme dire... C'est comme si t'étais fan d'un réalisateur de série en particulier où toutes ses séries étaient sur Netflix et d'un seul coup, il fait une série sur Amazon Prime. Bon, ça peut arriver.
Laissons les gens vivre.
Il faut être prêt à l'accepter.
Quel concept novateur. Oui, Pierre, vas-y.
Pour relativiser, franchement, il y a 1000 signataires sur la pétition.
Oui, bien sûr. Et j'imagine qu'une bonne partie l'a fait pour ironiquement.
Oui, sans compter les trolls, mais voilà, on en parlait avec la Switch, quoi. C'est quand même la caisse de résonance de Twitter qui leur donne un peu de crédit, mais 1000 oui, personnes.
On est d'accord.
Parce que c'était quand même un peu l'évidence avec l'historique derrière Kojima ces dernières années qu'il allait finir par aller convoler un petit peu plus loin que juste dans le nid Sony.
Vous savez quoi ? C'était l'évidence qu'il allait aller là où on lui donne beaucoup d'argent. Parce que je pense que Microsoft a sorti le portefeuille. Et c'est intéressant c'est une initiative de Microsoft qui, pour la première fois là, clairement, s'achète les services d'un développeur japonais très connu. Et je me demande si c'est pas... Parce que comme ils ont visiblement soit pas l'intention, soit pas la possibilité de racheter, d'ajouter un studio japonais à leur collection, peut-être que, comme on en a entendu parler ces derniers mois, leur idée, c'est d'aller signer des développeurs connus pour qu'ils fassent des jeux exclusifs sur leur plateforme et qu'ils se récupèrent un petit peu les mêmes avantages. Et c'est très certainement un bon move. À chaque fois qu'on en parle, on le dit, mais à chaque fois qu'il rajoute un type de jeu ou il parle à une communauté différente, il donne il donne à encore plus de gens des raisons de passer sur le Game Pass. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de raisons, si on est très très fan de Japon et de jeux japonais, le Game Pass n'est pas forcément un service très intéressant. Mais s'ils prennent, je ne sais pas moi, Kojima, Miyazaki et quelques autres, et qu'ils chopent des jeux de tous ces développeurs-là, et qu'ils les mettent exclusivement sur Xbox et ou Game Pass, ça convainc encore plus de gens de s'abonner au service, ou en tout cas de l'essayer. Donc ça me semble être une bonne initiative. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas mentionné, j'ai oublié tout à l'heure en parlant de Sony, mais Sony a racheté un studio qui fait des adaptations de jeux sur PC. Alors, ce n'est pas forcément pour spécifiquement adapter leurs jeux au PC, mais ils ont annoncé que ça allait être, c'est Nixis, je crois, Nixis, oui. Ils ont annoncé qu'ils allaient venir en renfort technique pour les équipes PlayStation, peut-être pour adapter les jeux sur PC. Et si certains d'entre vous se demandent... pourquoi est-ce que Sony voudrait adapter ses jeux sur PC ? Le top des ventes sur Steam la semaine dernière, en valeur, écoutez ça, hein. Alors il n'y avait pas énormément de grosses sorties sur le moment, mais quand même, sur Steam, le top des ventes c'était Sea of Thieves, Forza Horizon 4 édition standard, Sekiro Shadows Die Twice, PUBG, et ensuite Forza Horizon 4 version Ultimate. Et puis en 7e position, Halo Master Chief Collection. Il y a quand même dans le top 10, 1, 2, 3, 4 jeux Xbox. C'est évidemment une source de revenus énorme. Et si tu peux faire de l'argent là-dessus, évidemment qu'ils ne vont pas se priver, surtout au fur et à mesure que les budgets augmentent et, qu'ils semblent, et que la solution de Sony, qui est on met notre jeu exclusivement sur notre console pendant 3 ans et ensuite on peut le sortir sur PC pour faire un petit peu plus d'argent sur un jeu rentabilisé, ou beaucoup plus d'argent, c'est complètement logique au final quand on voit ça.
Est-ce que tu veux dire que tout le monde est comme Kojima et que tout le monde aime l'argent au final, Patrick ?
Écoute, il me semble que cette théorie n'est pas totalement incongrue. D'ailleurs, patreon.com/rdvjeux. Et à propos d'argent et de l'amour de l'argent, vous savez, ce qui va à l'encontre de cette idée, mais en fait pas vraiment, c'est l'open source. Et vous connaissez Lumberyard, le moteur 3D racheté par Amazon, et en fait c'était le CryEngine je crois, et qu'ils ont retravaillé entièrement, eh bien ils l'ont open sourcé, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau moteur de recherche qui arrive sur la place des moteurs, pardon pas moteur de recherche, qu'est-ce que je raconte, un moteur 3D qui va être disponible pour les développeurs, pour développer leurs jeux, et qu'il va être disponible gratuitement, il va être open source entièrement. Il y a une coalition de plusieurs développeurs et de plusieurs sociétés, Amazon bien sûr, mais Adobe, Huawei, Niantic, Intel, etc., etc., pour développer ce moteur et proposer une alternative aux deux autres principaux que sont Unreal Engine et Unity. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est un truc très business, enfin très industrie, mais Pierre, est-ce que tu sais pourquoi ils font ça, Amazon ? Quels avantages ça peut avoir pour les développeurs ? Ça peut être curieux comme décision, finalement. Ils avaient un truc, ils l'utilisaient. Pourquoi est-ce qu'ils vont le mettre en open source et l'offrir gratuitement ? Je ne sais pas si tu as une réponse là-dessus.
Alors moi, je ne connais pas forcément bien la stratégie d'Amazon là-dessus. Hein. Plutôt leur côté jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi... un projet qui va être géré par la Fondation Linux. Donc, on est clairement sur, voilà, comme tu parlais, sur la mouvance open source. Et, alors que ce soit Amazon qui le fasse, c'est un peu étonnant. Mais en tout cas, voilà, ils veulent proposer un concurrent sur le secteur. Et moi, j'ai lu des papiers comme quoi ce sera un moyen de développer le métaverse, en fait. Cette alternative un peu... à Internet que l'on explorerait entre guillemets physiquement, avec, enfin plutôt avec des avatars.
Pardon, je croyais que tu avais fini.
Non, vas-y, je t'écoute.
Il est effectivement, on me dit dans la chatroom, open source, c'est pas gratuit. En l'occurrence, géré par Linux, ils vont pas le rendre payant, hein, je crois. C'est pas l'idée. Peut-être qu'il y aura ensuite des distributions différentes, mais je crois que Il y a une culture de l'open source qui bénéficie énormément aux sociétés commerciales et que, en l'occurrence, l'idée de pouvoir bénéficier de ces technologies gratuitement peut permettre de développer des choses qui ne seraient pas possibles autrement. Et il y a plein, enfin, c'est le principe de l'open source et du libre dans ces industries et ça bénéficie à tout le monde au final. C'est pour ça que je disais, au final, même les sociétés commerciales sont intéressées par ce genre de projet parce que ça leur permet de faire plus d'argent. Mais là, je me demande s'il y a vraiment une place à prendre. Alors, le fait que ça soit adossé à Linux, ça veut dire qu'il y aura peut-être un moteur 3D important sur Linux et que ça a fait un package open source qui sera plus intéressant pour les développeurs. Mais il ne faut pas oublier que Unreal Engine et Unity sont des outils de développement qui sont très utilisés déjà et qui sont entre guillemets gratuits, enfin qui sont gratuits jusqu'à une certaine quantité de revenus. Donc ces projets, ces outils sont déjà quasiment gratuits. Je me demande si ça sera utilisé ce truc-là par des petits développeurs ou ça sera utilisé comme base pour ensuite développer leur propre moteur pour des plus gros développeurs finalement. Parce que les petits développeurs, ils ont besoin peut-être de facilité d'utilisation et de finition qui n'est pas forcément disponible quand on part sur un truc open source de ce type-là qui n'est pas pensé à la base pour l'utilisateur final ou peut-être un petit peu moins. Donc, mais bon, ça reste quelque chose d'assez intéressant. C'est un concurrent qui pourrait devenir très sérieux dans certains cas de figure. Alors, dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce sujet qu'on évoquait la semaine dernière de la PlayStation, enfin en tout cas du PlayStation Store qui posait des problèmes aux développeurs indépendants. Et on parlait du sujet en particulier du placement sur les stores. Et je disais la semaine dernière, ah mais il y a des gens qui se plaignent, enfin les développeurs indépendants se plaignent qu'il faut payer pour être mis en avant sur le store, mais moi ça me paraît normal qu'ils fassent payer, et Sony va pas juste proposer à tout le monde, enfin gratuitement d'être placé sur le store, ça c'est un placement éditorial et il y en a déjà, mais après c'est comme de la pub effectivement et c'est normal, mais en lisant plus et en écoutant plus de témoignages, je comprends mieux ce qu'il voulait dire. En fait, sur tous les stores, on parle en particulier des consoles, même si c'est le cas peut-être avec Steam et dans une moindre mesure l'Epic Game Store, il y a différents moyens d'être mis en avant. Il y a les tops des ventes, il y a les jeux en promo en ce moment, il y a plein de listes différentes, même chez Nintendo qui est notoirement pas super bon historiquement sur ses interfaces, et bien sur la Switch, c'est beaucoup plus le cas. Et chez Microsoft aussi. Et chez Sony, les jeux sont impossibles à trouver au-delà de la recherche, en fait. On ne peut pas naviguer dans le store et tomber sur des jeux qu'on n'aurait pas été en train de chercher, à part si ceux-là ont payé. Donc, la problématique, au-delà de toutes les problématiques de communication et de lourdeur administrative qu'il y a chez Sony, qui sont encore une autre question, la problématique venait du fait que le store visuellement, ne met rien en avant, en fait. C'est juste les derniers jeux qui sont la liste qui a été dessinée par Sony, et basta. Il n'y a pas ni les jeux les plus téléchargés, ni les jeux en promo, ni les jeux... Donc, il n'y a aucun moyen pour les indés en particulier de remonter à la surface. Et c'est ça que disaient spécifiquement les développeurs et que j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très clair quand on en avait parlé la semaine dernière, donc je voulais le repréciser parce que la problématique est beaucoup plus compréhensible dite comme ça, expliquée comme ça.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là-dessus, Xbox n'est pas beaucoup plus exemplaire sur le sujet. Enfin, tu vois, moi, quand j'ouvre l'interface du Game Pass, je ne la trouve pas forcément non plus ultra claire. Alors déjà, je trouve que pour naviguer dans le catalogue, c'est une horreur et que les catégories qu'ils mettent en avant ne sont pas toujours hyper pertinentes, quoi. Donc,
après, mais au moins, bon,
c'est un launch...
Au moins,
mais au moins
il y en
a, ouais, c'est vrai.
Et
ouais,
et il y a le store et le Game Pass qui sont deux choses différentes. Et puis il y a plusieurs endroits sur l'interface Xbox où on peut voir des jeux. Sur le PlayStation Store, en particulier sur PlayStation 5, c'est le désert. Hein. tu as une page avec, je sais pas, une vingtaine de jeux, et après, il y a des sous-catégories hyper mal foutues. Je comprends, en fait. Moi, je m'en fous, je vais chercher les jeux. Mais sur PlayStation, si tu veux trouver un jeu, bah, il faut aller faire une recherche, tout simplement. Donc, ouais. Le fait de découvrir des trucs auxquels tu ne penses pas déjà, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et étonnamment, même chez Nintendo, on peut plus trouver des trucs qui sont mis en avant que chez Sony. Donc,
oui, et puis chez Nintendo, en plus, ils te font tout le temps des communications avec les jeux les plus vendus du mois, les promos, etc. Bon, après, le store est devenu une vraie poubelle, mais bon, c'est un sujet.
Peut-être que l'idée de Sony, c'est d'offrir une expérience propre et clean à la Apple. Et du coup, oui, bah, c'est plus difficile. Ouais. Alors, allez, quelques news très rapidement. Du côté de chez EA, on avait parlé d'une rumeur de nouvel épisode de Dead Space. Et bien finalement, ça serait peut-être un remake du premier, peut-être avec une trilogie comme on la Legendary Edition. Voilà, encore un nom de nouvelle version qu'on avait vu pour Mass Effect il y a quelques temps. Donc peut-être que ça serait ça pour Dead Space et pas un nouvel épisode. Peut-être qu'à terme, il fera un nouvel épisode aussi. On a également le premier trailer de Steel Rising. C'est le jeu de... C'est Spiders, Steel Rising. Vous vous souvenez, c'est... Oula, pardon, j'ai du son dans les oreilles. C'est ce jeu avec des automates pendant la Révolution française. Et alors, on va tenir notre quota de Souls-like de l'émission. Ça semble être... Ça pourrait potentiellement être un petit peu Souls-like, ce jeu. C'est en tout cas graphiquement, stylistiquement très intéressant. Je vais lire la série de news et puis vous me dites ce qui vous a intéressé là-dedans. Il y a aussi une nouvelle extension pour les Sims 4 qui me donne juste l'opportunité de rappeler à quel point les Sims est increvable. C'est invraisemblable. Il est sorti quand, les Sims 4 il y a 10 ans peut-être.
On doit pas être loin, franchement.
Ouais. Et donc, il y a une nouvelle extension, La vie à la campagne, que moi, je connais bien déjà. Il y a un jeu Robocop qui est développé par Nacon. Un jeu Robocop, ça nous ressort de loin. Il arrivera en 2023, hein, donc on n'y est pas encore. J'avoue que je me disais, ah, oh, Robocop, mais on s'en fout, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis, en voyant le flingue qui sort de la jambe, vous savez, la jambe qui s'ouvre dans le trailer, on voit que ça, hein, quasiment. Je me dis, ah, mais... Ah, oh, peut-être, pourquoi pas, c'est sympa Robocop quand même. Bon, c'est ma jeunesse qui parle. Et donc, dans deux
semaines. On...
Attends, non, je finis sur ces news et puis après, on discute de tout. Le Witcher Monster Slayer, qui est le Pokémon Go sur Witcher, enfin, sur le thème Witcher, arrive le 21 juillet. Donc, si vous attendez le 21, c'est peut-être l'arrivée aussi, ça correspond plus ou moins à l'arrivée de la deuxième saison de la série Netflix. Si vous voulez jouer à Pokémon, mais avec des monstres Witcher, bah, vous pourrez le 21 juillet sur vos téléphones mobiles. Et Atari, enfin, est en train de revenir dans le jeu PC et console. On attendait quand même que Atari fasse des choses à ce niveau, vu l'incroyable succès qu'ils vont connaître avec leurs hôtels, leurs consoles rétro qui sont en fait des PC. Ils font même des casinos dans certains pays du monde. Ils ont montré, les nouveaux propriétaires de la marque, qu'ils savent gérer la marque Atari. Et on a très, très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer sur PC et console, hein, clairement. L'ironie est assez forte dans ma voix, évidemment. Donc voilà, une série de petites news. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres? Du coup, Eska, tu avais l'air enthousiasmé par Robocop?
Bah, écoute, non, justement, c'est un peu l'inverse. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on déterre une licence comme ça qui doit faire très plaisir aux boomers dont je fais partie. Mais je pense que pour les jeunes générations d'aujourd'hui, Robocop, quand tu vois les derniers films qui sont sortis sur Robocop, c'était quand même... loin d'être génial. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on vient coller. Alors après, vu le studio qui a priori avait fait ses précédents jeux, c'était sur Terminator, du coup j'ai envie de dire quelque part ça colle. Mais je me dis, ils auraient pu faire un jeu sans utiliser le nom de Robocop. Enfin, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'aujourd'hui le nom Robocop fasse vendre, fasse une grosse différence au...
Tu sais quoi? S'ils avaient fait un autre jeu qui s'appelait Cop in the City, eh ben personne n'en parlerait. Et c'est pour ça qu'ils font Robocop, je crois. Tu vois, alors, ils ont dû payer la licence 14 euros, Et sauf si c'était un bon jeu, c'est ça que t'allais dire.
Mais c'est ça. Donc au final, on nous en parle parce que ça s'appelle Robocop, mais ce sera un jeu tout aussi médiocre. Donc voilà, c'est à peu près tout le bien que j'en pense.
Ouais, peut-être. On sait pas. Peut-être qu'ils en parlent et que ça sera un bon jeu. On peut espérer. Qu'est-ce que je disais
je
la dernière
pas,
fois
C'était un nom de studio qui te parlait, toi, Taeyeon
Écoute, je sais plus ce que je disais il y a quelques semaines, un truc du genre « Ouais, mais pourquoi pas ?» C'était la manière de dire que, poliment que, en fait, pas vraiment, quoi. Oui, mais peut-être, pourquoi pas, tu vois. C'est ma réaction.
Je sais pas, enfin, franchement, même les premières images, enfin, c'est... Bref.
Oui, bon.
Ok.
On va arrêter de taper sur ce pauvre Robocop qui n'a rien demandé.
Alors, mais moi, j'ai rien contre Robocop, hein, mais bon.
Écoute, j'ai l'impression que tu l'aimes pas beaucoup. Hein. Pourquoi pas, faut si, voir. Je crois que c'était
en
ça.
1987...
Merci,
en 1987, c'était bien, quoi.
Ouais. Bah, pourquoi pas, faut voir. Hein non. Pierre, est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé dans ces petites news?
Alors moi, vous me donnez envie de revoir le film de Verhoeven. Hein.
C'est... c'est ça. Mais parce qu'on est des boomers.
Même. Pas complètement.
Des films aussi transgressifs, franchement, on n'en voit pas beaucoup. Hein. C'était une grosse production. Voilà, c'était vraiment un film assez dérangeant. Et je pense qu'il l'est encore et qu'on n'en voit pas de cet acabit aujourd'hui.
Tu sais, ce qui me marque le plus dans Robocop encore aujourd'hui, c'est le visage fondu à l'acide du mec sur la voiture. Ça m'avait terrifié à l'époque, je devais être relativement jeune. Enfin, terrifié, ça m'avait marqué. Et j'ai beaucoup plus retenu ça que, que le commentaire social, tu vois, de Verhoeven.
Ouais, ou tout le début, la scène d'intro où il présente le robot qui tue tout le monde dans le conseil d'administration. C'est quand même assez badass, quoi. Et des jeux badass, aujourd'hui, on n'en manque pas. Je pense qu'il faut aller le chercher ailleurs que dans Robocop ou Starship Troopers, qu'il a fait ensuite, qui est encore culte. Hein.
Donc, on est d'accord.
Si, cet esprit-là, il a baigné le jeu vidéo, mais ouais, moi, je suis comme toi. Hein. Je ne pense pas qu'on le retrouvera dans ce nouveau jeu, mais je lui laisse le bénéfice du doute.
Ouais, écoute, pourquoi pas, faut voir. Bon, écoutez, moi je vais remettre juste un petit coup de projecteur sur Steel Rising. Si vous n'avez pas vu cette petite bande-annonce de gameplay, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. C'est graphiquement, ou plutôt même la direction artistique est vraiment intéressante. Et je suis très curieux de voir ce que donne le jeu, parce que c'est vraiment un jeu d'action-action. Et ces automates sont étranges et fascinants. Et puis dans le contexte de la Révolution, évidemment qu'on connaît bien parmi les franchises, il y a un style qui est particulier. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc,
c'est news 14 juillet, là.
C'est ça, exactement, ouais. Exactement.
Mais il a le même nom presque que Steel Rain, l'extension de Fallout 76 qui sort aujourd'hui ou demain, si je me trompe. Ça pose confusion, je trouve.
Écoute, le jeu sortira plus tard. Il sort dans un an, tu vois. Il sort en juin 2022. Donc, on a le temps d'oublier Steel Rain. Et de toute façon, ça ne sera jamais aussi terrible que Outer Worlds et Outer Wild. Donc, ça va, de l'entraînement, tu vois, sur les noms confusing.
Mais l'univers a l'air intéressant, en tout cas. Je trouve que visuellement, il y a quelque chose. Ça a l'air un peu mieux que Robocop, quoi.
Mais encore une fois, c'est une variation intéressante sur les robots aussi. Moi, j'adore les robots. Et le côté automate, tu vois, un peu, je sais pas, steampunk.
C'est tout à fait steampunk.
Eh bien, écoutez... Là, je vais pas dire, je sais pas, faut voir. Je vais dire, je suis très très curieux et j'ai hâte d'en savoir plus. Donc c'est un petit peu plus authentique. Et voilà pour nos informations. Entre parenthèses, Facebook est en train de lancer le cloud gaming mobile partout aux US. Donc encore un acteur du cloud gaming, uniquement mobile pour le moment, mais pourquoi pas un petit peu plus large à terme. À voir. Merci beaucoup Pierre et Eska de m'avoir accompagné dans cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de discuter un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu ? On va commencer avec Escarina.
Alors, on peut me retrouver sur Twitter, donc Escarina _. On peut me retrouver ici tous les deuxièmes jeudis du mois. Je sais qu'il y a Gros Panda qui nous écoute là en ce moment, donc il faut absolument que je parle de Super Gamer Side, l'autre podcast jeux vidéo sur lequel on parle avec beaucoup d'humour et d'approximation de la pas du tout actualité du jeu vidéo, mais on s'amuse beaucoup et a priori les gens s'amusent bien aussi en nous écoutant. C'est donc bien le principal. Et puis, alors, on a beaucoup moins de temps en ce moment, mais de temps en temps aussi sur Kiss My Geek pour l'actu geek. Voilà.
Super, merci beaucoup, Eska. Et Pierre, dis-nous, où est-ce que tu officies sur l'Internet de qualité ?
Alors, sur l'Internet, vous pouvez me retrouver dans la rubrique Pixel du Monde. Et c'est là où j'écris majoritairement sur les jeux vidéo. Et sinon, sur Twitter, sous le pseudo Pierre3D.
Pierre3D que j'ai noté effectivement, je me suis dit 3D, est-ce que c'est venu avant les pseudos avec HD ou après ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Est-ce que tu as hésité avec Pierre HD ou est-ce qu'il était déjà pris ? Ou Pierre 4K, tu vois, pour faire vraiment moderne ?
Vieille histoire, ça remonte à 2010 ou 11 si je ne me trompe pas. Et à l'origine, c'était un truc, je crois que j'étais influencé par le chanteur de... fictif de Gorillaz qui s'appelait 2D, je trouvais ça marrant.
Ah, d'accord.
Tu vas devoir te renommer Pierre OLED maintenant.
C'est magique, ça. C'est un modèle OLED, s'il te plaît.
Et pour seulement 50 euros de plus, donc ça vaut le coup. Super, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pourrez retrouver sur notepatrick.com les liens vers tout ce que je fais, y compris... Super Laser Punch, où on parle des émissions et des films, enfin des séries et des films Marvel, avec mon ami Johan. Vous pouvez directement sur notepatrick.com trouver les liens qui vous emmèneront pour vous abonner à ce podcast sur l'application de lecteur de podcast que vous utilisez en ce moment précis. Et puis, vous trouvez bien sûr aussi dans les notes de cette émission que vous écoutez en ce moment, le lien vers le Patreon du rendez-vous jeu qui vous permet... De prendre cette décision majeure de votre vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va du côté de la lumière ou du côté de la noirceur, finalement ? Est-ce que votre âme est lumineuse ou sombre ? En même temps, il y a peut-être beaucoup de gens un petit peu genre métal, émo dans l'audience. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur moyen de les convaincre de soutenir l'émission.
Ouh là 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 là, attention, tu mélanges les communautés métal et émo, là tu vas avoir des problèmes, Patrick.
Je ne mélange pas du tout. Je dis que les deux seraient peut-être, tous les deux, prompts à dire que leur âme est plutôt sombre. Sur ce point, je pense que tu ne me contrediras pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Non, je ne ferais pas une erreur aussi grossière. Si je faisais ce genre d'erreur, ça ferait bien longtemps que je ne serais plus dans le business de l'Internet, évidemment. Donc, patreon.com/rdvjeux, quand vous rentrez chez vous, ou même maintenant, tout de suite sur votre téléphone mobile, vous pouvez contribuer à l'émission et je vous en remercie du fond du cœur. Merci à tous et à toutes. C'est tout pour aujourd'hui, enfin, sauf si vous êtes justement contributeur et on a l'after show qui arrive tout de suite où on va parler des jeux qui nous ont marqués, des jeux qui nous ont fait comprendre qu'on était adepte de ce média et qu'on était vraiment un gamer ou une gameuse. Et puis, si vous n'êtes pas patriote, on se retrouve la semaine prochaine où on décortiquera toujours l'actu du gaming avec notamment ce fameux State of Play. Il y aura peut-être des surprises intéressantes. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.